Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité, évidemment dominée par la grève dans les transports SNCF, RATP, par la manif demain, cinquième jour de grève, une grève qui est de plus en plus soutenue selon un sondage IFOP publié hier dans le JDD. On va parler de Jean-Paul Delevoye qui a oublié, ça arrive, hein, de mentionner son lien avec le monde de l'assurance. Qu'en pensez-vous? Et comme par hasard, les assureurs soutiennent la réforme des retraites. Et puis, j'avais envie qu'on parle aussi de ces ministres candidats aux municipales. Doivent-ils démissionner? On en parle avec vous, 0826-300-300. Pour commenter l'actualité aujourd'hui, François Monboise, bonjour, président bonjour. De la FEVAD, c'est la Fédération Européenne de la Vente à Distance. Mathieu Alterman, journaliste, auteur. On vous retrouve bonjour. Également tous les vendredis dans TPMP. Sur C8.
À 17h45.
À 17h45. Votre livre, c'est Femmes Fatales.
Le dernier livre, c'est Femmes Fatales,
voilà,
oui.
Absolument. Vous êtes très, très éclectique dans vos publications. Ariel Veil, bonjour. Vous êtes maire du 4e bonjour. Arrondissement de Paris et tête de liste Paris en commun, donc pour Paris Centre. Et puis Sophie de Menton, comme tous les lundis, pour réjouir nos auditeurs.
Mais oui, on n'a pas les habituels aujourd'hui.
Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Merci à vous d'être là parce que ce matin, c'est vrai que, en tout cas, à Paris, c'est la galère, mais c'est la galère également dans beaucoup d'agglomérations. Lyon, il y a tout autour des grandes agglomérations pour circuler. C'est extrêmement compliqué. Malgré cela, vous soutenez la grève.
J'aimerais bien un clivage pour un savoir clivage. Ceux qui soutenaient. Parce que quand on fait un sondage, on regarde l'origine où est-ce qu'ils habitent les gens.
Ah oui.
Et j'aimerais savoir, dans ceux qui soutiennent la grève, combien sont dans la galère absolue des gens qui bossent.
C'est un échantillon représentatif. Normalement,
ouais.
Vous direz notre ami Frédéric.
Justement, mais c'est Frédéric pas valable là-dessus.
Ouais. Alors, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Mathieu. Alors
moi, j'ai un coup de cœur. On va faire un truc un peu positif. Ouais. C'est sur le Téléthon qui a remporté un immense succès ce week-end. Plus de 74 millions d'euros de dons. Et puis, vous savez, le Téléthon, quand on était petit, je me rappelle, c'était un truc qu'on ne comprenait pas trop ce que c'était. Ouais. Puis, la semaine dernière, j'ai quelqu'un avec qui je travaille sur l'émission de télé qui me dit « Mais tu sais, si mon père... et vivant aujourd'hui, c'est grâce au Téléthon. » D'un seul coup, ça fait bizarre, ça. Mais il y a quand même un petit problème, c'est que vous avez des associations pro-animaux, je ne sais pas comment on peut dire ça, excessives, qui dénoncent le Téléthon en disant qu'il y a des essais qui sont faits sur des animaux. Je dois juste rappeler qu'à un moment, on doit forcément faire des essais sur quelque chose. Donc, soit c'est des animaux, soit ce sont des gens. Vaut mieux que ce soit des animaux que des gens. Voilà.
Ouais.
Arrêtons de raconter n'importe quoi.
Il y a eu des vrais... On a eu Sophie Davant qui est venue dans cette émission la semaine dernière, qui... Et puis on l'a vu tout au long du week-end, les progrès qui ont été faits effectivement en matière de recherche. Et c'est vrai que les gens sont mobilisés, beaucoup en province. Je vois dans le petit village de ma maman, en province, les gens font des confitures. Enfin, il y a toujours cet élan de
absolument,
solidarité.
Absolument, alors qu'il y avait une baisse l'année dernière.
Absolument, donc joli coup de cœur. François, vous, c'est un coup de gueule?
Oui, c'est sur un sujet qui me tient à cœur. C'est un tribunal administratif à Nice qui a remis en cause une décision de l'ANSES sur un pesticide que je ne connais pas. Mais je trouve le principe vraiment dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des associations gouvernementales, scientifiques, qui déterminent si des produits sont nocifs ou pas. Oui. Et un tribunal, au nom du principe de précaution, dit bah non, ce produit, je l'interdis parce qu'on ne peut pas prouver que le produit est inoffensif.
Ouais.
Et prouver l'innocuité d'un produit, c'est quand même très dur. Donc si on ne fait plus confiance aux autorités scientifiques, si la justice passe par-dessus, je trouve ça très grave. Ça rappelle le fameux gag, vous savez, aux États-Unis, de la dame dont le chien était mort dans un four à micro-ondes.
Ouais.
Et elle a attaqué, elle a gagné, parce que le four à micro-ondes n'avait pas mis dans les notices qu'il ne fallait pas mettre d'animaux. Voilà. Et donc c'est le juridique qui prend le pas sur le scientifique, et je trouve ça...
Dans ce cas-là, le chien était vraiment mort. Donc,
le chien était mort.
Il y a un argument en plus. Alors aujourd'hui, effectivement, l'argument scientifique n'a plus aucune
chat,
valeur
d'ailleurs.
Par rapport à l'émotion.
C'était un chat.
Et ses principes de précaution.
Ouais. L'émotion a gagné.
Sophie ?
Oui, justement, mais ça va un peu dans le même sens, dans la mesure où les idéologies aujourd'hui l'emportent sur la raison. Et moi, c'est un coup de gueule contre les ultra-féministes, entre guillemets, ou féministes tout court d'ailleurs.
Oui.
C'est extraordinaire. Au nom du féminisme, à la gare de Brest, on vient de supprimer les urinoirs. Et pourquoi ? Parce que c'était discriminatoire. En l'occurrence, l'association féministe était scandalisée par rapport à la différence de traitement entre les hommes et les femmes, qui les hommes se soulageant, entre guillemets, gratuitement, alors que les secondes devaient débourser 20 centimes, parce qu'il y avait probablement des toilettes qu'il fallait nettoyer différemment. Non, mais on est tous tombés sur la tête. Alors, qu'a fait la gare ? On aurait pu imaginer qu'elle rende gratuite
toutes les toilettes pour femmes.
Eh ben non. On a juste supprimé, refait les toilettes. Et c'est exactement les mêmes toilettes. La SNCF convaincue, il fallait d'urgence mettre fin à ce régime spécial. Ouais. Donc, aucune autre solution sauf abolir les commodités mâles.
Donc, il y a plus de.
Ce qui s'appelle votre retraite.
Mais pardon, alors... mais c'est la réaction qui est subie. Excusez-moi, je me permets d'intervenir.
Ouais, mais c'est la réaction pour
qui est absurde. Mais la revendication est légitime que oui, les femmes puissent aller gratuitement aux toilettes.
Non, l'argent,
je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas gratuitement se soulager au même titre que les hommes.
Alors, c'est la réaction qui est absurde.
Non, alors qu'elles disent simplement, c'est pas le mot à dire, parce que soulager, etc., on s'en fout. C'est dire, c'est gratuit pour tout le monde, point. Mais on se fout
oui, mais ce ne sont pas les féministes qu'il faut attaquer, c'est la
guerre. Non, mais
elles ont dit que c'était discriminatoire.
Bah, c'est discriminatoire, je suis
désolée.
Maintenant,
les femmes doivent faire pipi debout, en fait, ça doit être
non,
ça.
Mais puis on peut aussi aller plus loin dans le débat, parce qu'il y a petite commission, une grosse commission chez les hommes, qui aura dû quand même payer 20 centimes. Enfin, voyez, on va élever un peu le truc.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est absurde, aussi bien les revendications, entre guillemets, qu'on dise que ce n'est pas normal que les femmes payent. Oui, personne n'aurait réagi.
Je ne trouve pas absurde les revendications, pardon.
Non, la
revendication. Non, je disais qu'on dise que ce n'est pas normal que les femmes payent par les hommes. Oui, point final.
Allez. Voilà. Oui, bon, mais la réponse est absurde. Ariel Veil, donc vous, c'est un coup de gueule aussi.
Ben, je vais rester peut-être sur ce sujet. Ouais. Je ne sais pas si c'est une revendication féministe. En tout cas, c'est une revendication des papas, je crois, de ma génération, que de s'occuper de leurs enfants au même titre que les femmes. Et je crois que c'est aussi important pour les femmes. Oui, cette polémique absurde l'autre jour qui a vu des animateurs d'une émission que je n'ai même pas regardée, mais enfin qui a tourné pas mal sur les réseaux, dans lequel on moquait justement la décision d'un joueur, d'un défenseur, en l'occurrence du PSG. Il se trouve que j'ai un soutien inconditionnel à la maison du PSG. Marquinhos, qui était allé assister sa femme, enfin en tout cas la soutenir
pendant son accouchement.
D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais peut-être qu'il était
lui-même, peut-être.
Non,
on ne sait pas. Hein.
Je ne pense pas qu'il l'a couché lui-même, mais vous savez, c'était leur deuxième enfant, donc ils ont déjà un premier enfant. Quand c'est mon cas, on a eu plusieurs enfants. On sait que c'est un moment très difficile.
Évidemment.
Il faut quelqu'un pour s'occuper des enfants. Et donc, il était aux côtés de sa femme, c'est très bien. Peut-être qu'il s'occupait justement du premier enfant. C'est un moment qui est pas facile pour un enfant qui est déjà là, qui attend un petit frère ou une petite sœur. Et évidemment, absurdité et même indécence de la moquerie
sur. Mais c'est quoi sur les réseaux sociaux. En fait, c'est plus.
Mais j'ai pas compris ce qui s'était passé. Excusez-moi.
Il s'est fait allumer sur les réseaux sociaux parce qu'il a manqué un match.
Il y a des animateurs qu'on trouvait malins de rigoler justement en disant tiens, c'est lui qui va, il a besoin. Il a donné le sein aussi pendant qu'on y est. Donner le sein, je crois que c'était ça.
C'est fou.
Et pour moi, c'est symbolique de peut-être ça aussi qui est en train de. Et c'est peut-être vrai pour tous les autres sujets, d'une époque qui est en train de changer. Je sais pas, vous savez, je pense à Gramsci.
Oui, mais alors il y a l'effet de balancier et je trouve ça bien, mais l'indifférenciation indéfiniment des sexes, des activités, etc., devient
personne ne parle d'indifférenciation. En l'occurrence, il y avait justement une tâche pour chacun d'entre eux.
Mais ça peut être sur les réseaux sociaux. On peut en reparler avec ce qui vous est arrivé, Sophie, également. Et moi, je voulais revenir, on en a un petit peu parlé aussi, sur Aya Nakamura, vous savez, cette chanteuse qui était au Téléthon ce week-end, à qui Nagui a dit, voilà, vous recevez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup de fans, qu'est-ce que vous pourriez lancer comme message au Téléthon? Et je pense qu'elle n'a pas compris la question. Quand vous la voyez, elle répond parce qu'elle est dans son truc et elle dit je reçois beaucoup d'amour, je remercie, j'ai jamais l'occasion de le faire. Et lui, il attendait à ce qu'elle dise au 36-37. Et il lui dit pour le Téléthon, et elle est un peu déstabilisée. Mais enfin, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de choses méchantes de sa part. Elle s'est fait déglinguer sur les réseaux sociaux d'une manière absolument.
Oui, mais c'est parce que dans son cas, il y a eu des précédents. C'est pas la première fois, voilà, il y a eu beaucoup de précédents. Mais
peu importe, on déglingue les gens de façon incroyable sur n'importe quoi.
Bien sûr, c'est
des bouts de phrases hallucinants.
Peut-être qu'on peut raconter, Sophie.
On va raconter parce que c'est drôle. Oui. C'est drôle, figurez-vous que je prends un taxi. D'ailleurs, Valérie a été ma première confidente parce que je l'avais au téléphone à ce moment-là. Je suis dans un taxi et moi, je bavarde avec les taxis. D'ailleurs, ça a permis aux gens
c'était un VTC.
Oui, pardon. Alors, erreur. Ça, c'est première erreur et je m'en excuse. J'ai dit un taxi Uber. Évidemment, ce n'est pas un taxi, c'est un chauffeur Uber.
Un VTC.
J'ai fait une mauvaise contraction. Et donc, je bavarde avec lui et je lui dis, oulala, c'est pas trop dur, etc. Il dit non. Ça circule mal, mais de toute façon, moi, dit-il, j'ai deux métiers. Ah, je dis, c'est bien. D'abord, je trouve ça bien d'avoir deux métiers. J'encourage les gens qui bossent. Et je lui dis, vous faites quoi? Il me dit, je suis
à la
RATP, mais je suis chef de station, gardien de station. Je n'ai plus le terme exact. Absolument scotché quand même, je lui dis, et jeudi, c'était avant, et je lui dis, vous allez faire grève jeudi. Ça ne me choquait pas outre mesure qu'un mec à la RATP le soir.
Et un deuxième
Uber,
boulot, c'est plutôt.
Un deuxième boulot. Et il me répond, et comment ? Parce que et la journée, hein, d'ailleurs, je pense à lui aujourd'hui, si jamais il nous écoute, hein, il doit se faire du fric, ça, c'est déjà ça. Ouais. Il peut mettre de côté pour sa retraite. Ouais. Et donc, je raconte ça parce que je serais scotchée. Mais il n'y avait ni haine,
donc
ni quoi que ce soit.
C'est un petit tweet. Et alors, suite à ça, il y a eu une émission de télé, il y a eu un fact-checking de Libération.
Mais pourquoi sur ce type-là
D'abord, Libé, qui a d'ailleurs posé des questions. Et je dois dire, par mail, je n'ai même pas compris que c'était Libé, j'ai répondu. En disant qu'il n'y avait aucune haine de ma part, qui a dit mais est-ce que c'est vrai, il faut vérifier, etc.
Donnez-nous le nom du chauffeur.
Oui, le nom du chauffeur. Alors j'ai répondu non mais que ça ne va pas, et puis quoi encore? Parce qu'en plus je pourrais, avec les fiches de taxi, je pourrais. Jamais au monde je ne ferais une chose pareille. Même pour prouver si j'étais devant un tribunal, je ne le ferais pas. C'est honteux, c'est cette délation permanente. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc, j'ai répondu là-dessus, on a fait un checkpoint, on a voulu vérifier qu'il n'y avait pas de fake news, on a appelé la SNCF, non mais c'est vrai,
la RATP et même BFM a fait un sujet dessus. Enfin bref,
et tout ça rejoint alors, un petit peu. En plus de ça, très intéressant, parce qu'ils ont d'abord dit, moi j'ai vérifié, on a le droit d'avoir deux boulots. Ouais. Et la RATP a répondu non et a fini par répondre à Libération, non, et si nous avons les coordonnées, il y aura des sanctions. Bien ce que je trouve lamentable.
Complètement lamentable. Bon, moi, j'ai un rapide coup de gueule. L'an dernier, plus de 140 000 personnes sont mortes de la rougeole. C'est un rapport de l'OMS. 15% de cas mortels de plus qu'en 2017. Quand on sait qu'il y a un vaccin qui existe depuis 50 ans contre cette maladie contagieuse qui touche les enfants de moins de 5 ans. Je sais, vous n'êtes pas d'accord. Nombreux, nos auditeurs de Sud Radio. Moi, je vous dis qu'il faut faire vacciner les enfants. Et que c'est
criminel. Valérie, c'est une honte. C'est la seule faille, à mes yeux, vraiment sérieuse des écolos. Parce que avoir les écolos sont contre les vaccins.
Pas tous, hein, pas tous.
Pas tous les vaccins. Oui. Rivasi,
numéro 2 de la liste écolo quand même.
Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est inimaginable d'imaginer qu'il y a un vaccin efficace et qu'aujourd'hui on meurt de cette maladie.
Il faut poursuivre en justice les gens qui font des campagnes anti-vaccins. Je suis pour qu'ils soient poursuivis.
Mais qu'ils ne se vaccinent pas aussi.
Ouais. Allez, on se retrouve.
Alors, c'est pas tous les vaccins, hein, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont vraiment
nécessaires comme celui que vous citez.
Sur la rougeole, c'est absolument pour moi indiscutable. Mais il y en a d'autres qui le sont, qui sont plus.
D'une manière générale, le vaccin. Enfin bref. On va pas faire ce débat, mais c'était mon coup de gueule. On se retrouve dans un instant. On va parler de la grève et de la réforme des retraites avec vous. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Cinquième jour de grève, une grève de plus en plus soutenue. Édouard Philippe doit présenter mercredi, le projet gouvernemental au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation syndicale demain. Le gouvernement va-t-il réussir à apaiser la colère? Est-ce qu'on est parti pour une grève très longue? En tout cas, 6 points de soutien gagnés en une semaine, malgré la pagaille. Les Français semblent soutenir cette grève. Qu'en pensez-vous? 0826-300-300. Appelez-nous, dites-nous si vous êtes en galère pour aller travailler. Beaucoup de gens ont rebroussé chemin ce matin devant l'ampleur des embouteillages ou devant l'impossibilité de prendre un transport en commun. C'est vrai que ça concerne principalement les grandes villes. Vous avez eu vous-même du mal à arriver, Ariel Veil?
Oui, absolument. Oui. Vous savez que moi qui prends les transports en commun, ou comme vous, le vélo, c'était compliqué un peu ce matin. Mais enfin, ça passait quand même.
Vous comprenez ce soutien des Français? Alors, c'est un sondage, hein, encore une fois, mais ce qui est assez
ils sont contradictoires. Assez... Hein, c'est les mêmes nombres qui soutiennent la réforme des régimes spéciaux.
Oui.
Ça suffit, les sondages.
Ce qu'on voit d'abord, je dis que c'est pas parce qu'on est dans la galère des transports qu'on soutient pas à la grève, hein. Les deux peuvent être compatibles. Mais ce que je comprends, c'est que les gens sont dans une grande confusion, c'est-à-dire qu'en fait on a du mal à suivre. La retraite, la réforme est compliquée, elle n'est d'ailleurs pas annoncée, pas précisée en tout cas pour l'instant, ce qui fait qu'on est dans une espèce de moment d'angoisse. J'en parlais tout à l'heure, hein, on est dans un monde qui change très vite, et les gens sont angoissés, ils sont d'autant plus angoissés qu'ils n'ont pas de choses tangibles à se mettre sous la dent. Et donc je pense qu'il est urgent de préciser, de rassurer, surtout cette réforme doit être rassurante, qu'on le sache rapidement.
Oui. C'est Xavier Bertrand qui a eu une phrase en disant qu'ils ont réussi à angoisser 35 millions de Français, de personnes.
Je pense qu'en fait les gens ne soutiennent pas la grève, ils soutiennent les autres qui ne comprennent rien ce qui qui se passe. En fait, c'est ça, vous voyez, c'est on ne sait pas, on ne comprend pas, alors que je vous donne mon sentiment personnel, c'est que cette réforme est absolument indispensable et il y a un manque de pédagogie délirant de la part du gouvernement, sachant que c'est quand même une décision qui était prise même avant la campagne, avant que le président soit élu. Donc c'est un amateurisme.
Oui, mais alors, je
vais
dans votre sens, mais je crois qu'il n'arrive pas à l'expliquer parce qu'elle est terriblement confuse en plus. Je veux dire que non, ce qu'ils ont fait avec les va-et-vient. Sur les décisions, les va-et-vient sur l'âge limite de la retraite, les va-et-vient sur les points, sur les régimes spéciaux, sur l'âge du grand-père ou de la grand-mère.
Sur le fait de savoir si c'est une réforme budgétaire ou du travail.
Parce aussi,
quand on voit le ministre du budget qui est sur tous les fronts pour parler de cette réforme, alors que ce n'est pas censé d'abord être une réforme budgétaire, on s'interroge aussi.
François Monboise, comment vous comprenez ?
Les sondages sont logiques, en fait. C'est-à-dire que les gens veulent majoritairement la fin des régimes spéciaux parce que ce n'est pas eux. Mais en même temps, comme c'est une réforme qui touche tout le monde, tout le monde est angoissé en disant « mais au fait, moi, ça va changer quoi ?» Et tant que le gouvernement ne peut pas répondre à chaque profession, et c'est hyper compliqué,
je pense qu'ils
n'y arriveront pas mercredi, ben les gens sont angoissés parce qu'ils disent « mais moi, je vais toucher quoi ?» C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens disent « quelqu'un de 5 ans ou 10 ans de plus qu'eux a touché tant, je me rattrape, ça fait tant », mais là, les gens ne savent plus du tout. Et on découvre des choses quand même après coup. L'histoire des enseignants, c'est quand même dingue qu'on l'ait découvert il y a 10 jours.
Oui, il y a 10 jours, absolument.
Et oui, on découvre que les enseignants, effectivement, ont des salaires hyper bas, hein, la moitié de l'Allemagne.
Ouais.
Mais l'accord tacite, c'est OK, vous avez des salaires bas, mais vous avez des vacances et vous partez tôt. Donc si on enlève la retraite tôt, c'est... Pour les instituteurs, c'est dramatique.
Oui.
Et votre retraite est calculée sur la fin de votre... Il n'y a pas une énorme différence entre ce qui touche à la fin et au début, mais c'est quand même un peu mieux à la fin. Donc si on leur dit, finalement,
les gens sont angoissés, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce mouvement. Les gens ne savent pas.
Mathieu Elzerman.
Non, mais je pense surtout que les gens ont un problème avec le réel. Je ne parle pas pour les gens du sondage, mais tout le monde sait en off que la réforme est obligatoire. De toute façon, il ne faut pas se mentir. Il n'y a personne, à moins d'être complètement con, excusez-moi.
C'est les idéologues.
Olivier Faure
a dit que ce n'est pas la peine de changer le système.
Mais c'est un problème démographique, on ne peut pas lutter contre. La presse, j'encourage tout le monde à lire la presse de gauche allemande qui rit de la France depuis la semaine dernière. Donc il y a un moment, on ne peut pas exiger que les régimes sociaux restent. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, quand même, mais des gens qui vont à la retraite à 57 ans et qui touchent des pensions plus grandes que d'autres qui vont à la retraite à 62, on ne peut pas l'expliquer. Et qui, en plus, ont la sécurité de l'emploi, c'est indéfendable. Enfin, il y a un moment... on doit dire, parce qu'on parle beaucoup de télétravail, il faut parler quand même de toutes ces professions. Oui. On ne peut pas faire de télétravail, qui sont souvent des professions, d'ailleurs... De gens qui ne sont pas aisés.
De pénibilité,
des femmes de ménage, des gens dans la restauration, des gens dans les magasins qui ne peuvent pas faire télétravail et qui vont avoir une baisse sur leur bulletin de salaire à la fin du mois.
On a Frédéric en ligne qui nous appelle de Blagnac. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
On vous entend très mal.
Oui, pardon, vous m'entendez
mieux. Allez-y.
Voilà. Non, mais tout simplement, le débat des retraites, il faut reprendre des dépenses. Je pense que les Français, on en marre aussi d'être à chaque fois des vaches à lait. La première réforme que l'on s'est prise d'une manière mais ostentatoire, c'est 93. La réforme Balladur, on est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Ça fait déjà un écart énorme. Et aujourd'hui, nos carrières, malheureusement, ne supportent pas des carrières longitudinales. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des carrières qui s'arrêtent, qui se stoppent. Donc vous imaginez la différence de retraite des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Sans oublier, on cotise énormément. Les gens ne le savent pas, on peut, il n'y a que les professionnels. Quand vous cotisez sur vos bulletins de salaire, sur les points Arco, vous cotisez à 127%. C'est-à-dire que vous achetez votre baguette de pain qui vaut 1 euro, vous la payez 1,27 euro. Les 27 partent pour la solidarité ou pour les prêts.
Oui.
Et vous achetez des points avec 1 euro. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore, si ce point 1 euro, c'est là où il faut faire attention avec le système à points qui va venir, si ce point qu'on achète 1 euro vaut 1 euro, pourquoi pas? Mais ce point qu'on achète aujourd'hui à la GIRC, à l'Arco, valeur 17 euros, il vous est repris 0,43. C'est-à-dire que quand vous partez, on vous le rachète 14 fois moins cher que vous l'avez payé.
Ouais.
Donc, attention au système à points. Que cache le système à points derrière? Et puis, les Français, on a aussi un petit peu marre.
Ouais.
On peut marre des inégalités.
Mais pour l'instant, on ne connaît pas le détail de cette réforme et on a le sentiment tout de même que le gouvernement doit être un petit peu paumé en ce moment.
Alors il est un peu paumé et en plus, si vous voulez, moi je dirais et écrit un article dans Challenge sur le sujet, je pense qu'il faut dire on efface tout et on recommence. Ils s'y sont mal pris, on est mal barré.
C'est difficile d'effacer, des choses qu'on ne peut pas effacer.
Il y a un moment où c'est un échec total. La concertation avec Jean-Paul Delevoye a finalement été un échec absolu. Ça a été soporifique pendant 2 ans pour ne pas faire de vagues. vague. On ne sait plus où on en est. Et je crois que les gens ne vont s'arrêter que si vraiment on repart sur des points très précis. Je crois que ça ne va plus du tout.
Ou qu'on réponde de manière très très précise sur un certain nombre de points.
Non, mais les points, déjà,
ce que dit le monsieur, quand même, moi, je note, il dit aujourd'hui, on a des carrières qui sont interrompues. Alors, vous allez dire, je parle encore des femmes, mais c'est vrai en particulier de gens qui s'interrompent.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que si on n'a pas très vite au moins une clarté sur quelles sont les priorités, qui on maintient, vous parliez des enseignants, vous parliez des profs des collèges.
On a tout fait en même temps, il faudrait faire branche.
Au secondaire, il faudrait quand même qu'on sache les priorités, qui on maintient, qui va pas pâtir. Aujourd'hui, ça, il faut qu'on affirme clairement.
D'accord, sauf que le cœur de cette réforme, qui est la chose la plus importante à
c'est service public.
Non, c'est
l'égalité des régimes spéciaux.
Une réforme qui va permettre aux gens qui vont changer de régime tout au long de leur carrière d'avoir une continuité. Voilà. C'est ça le cœur de la réforme. Justement.
Non, le cœur de la réforme finalement, c'était les régimes spéciaux. Il fallait faire ça tranquillement.
Non,
sérieusement.
Non, c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Parce qu'on est au régime général à 83%.
Non, les Français doivent être un peu égaux sur la façon de calculer la retraite.
Parce qu'il y a 40 000 objectifs différents et
c'est ça. Il faut évidemment sécuriser.
Exactement.
Diviser pour mieux régner, nous dit Muriel.
On règne pas là.
Sur Facebook. Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Jacques qui nous appelle de Toulouse dans un instant. 0826 300 300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et le débat continue sur Sud Radio avec vous, 0826 300 300, cinquième jour de grève des Français qui soutiennent la grève, selon un sondage IFOP paru dans le journal du dimanche. On va parler également de Jean-Paul Delevoye qui a oublié de mentionner son lien avec le monde de l'assurance. Qu'en pensez-vous? Alors, on a Jacques en ligne avec nous qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Voilà, moi ce que je voudrais dire très rapidement, c'est faire quelques constats simples. Je n'ai pas les éléments pour me prononcer sur sur la pertinence de la réforme, puisqu'elle est maintenue dans le flou, mais elle est maintenue dans le flou volontairement. Donc je m'explique. Je pense qu'il y a de la part du gouvernement une volonté de contourner la volonté populaire. Il y avait, après près de 20 mois de concertation, il y avait la possibilité de présenter une réforme, de donner aux gens les éléments de pouvoir calculer entre l'ancien système et le nouveau, hein, et d'avoir recours au référendum pour faire valider cette réforme. On est à la sortie de la crise des Gilets jaunes, sur des problèmes justement de non prise en compte de la volonté des gens, de la volonté populaire. C'était le moyen de faire un bel exercice démocratique en présentant la réforme aux gens pendant une certaine durée, que les syndicats, que le gouvernement, tout le monde ait la possibilité de donner ses explications sur la réforme et de faire trancher. Au lieu de ça, M. Macron a organisé cette division et avec un problème de calendrier, parce qu'en plus de ça, après un an de gilets jaunes, il aurait quand même été préférable de la différer un petit peu, de ne pas présenter cette réforme en mois de décembre. Ouais. Mais en plus de ça, hein, en ayant recours aux vieilles ficelles, de pointer les régimes spéciaux, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un véritable délit de démocratie dans lequel nous sommes en train, auquel nous sommes en train d'assister, et qu'il y avait moyen de poser calmement, clairement, le problème des réformes, puisque réforme il doit y avoir, et de ce fait, permettre aux gens de se prononcer. Mais on a eu recours aux vieilles méthodes. Alors, pour quelqu'un qui allait installer le nouveau monde, je trouve qu'il a recours aux ficelles de l'ancien monde. Voilà
ce que je veux dire. Merci Jacques de votre intervention.
Non, mais
c'est la méthode qui pose problème.
Oui, mais on peut pas dire que c'est un déni de démocratie. Le président Macron a été élu, l'Assemblée a été élue, ils font ce qu'ils veulent. À un moment, voilà, il y aura des élections dans 2 ans. Ouais. On parle de référendum. Moi, je sais pas, mais pour moi, le référendum, c'est toujours une note qu'on donne au gouvernement avant le sujet du référendum. On ne peut pas faire de référendum quand un gouvernement est impopulaire, parce qu'on sait que... On se rappelle ce que ça s'est passé avec Jacques Chirac sur la Constitution européenne.
On ne vote pas pour la question, on vote pour celui qui la pose.
Exactement. Alors. Donc c'est très dangereux, et je trouve ça très démagogue de parler de référendum. C'est très dangereux, bien sûr.
Mais la méthode, non, il n'en reste pas moins que ce que dit Jacques, c'est que la méthode n'a pas été la bonne, en tout cas.
Oui, non, en plus, on peut... je vais plus loin. Ça faisait partie du programme sur lequel il a été élu, la réforme elle-même. En revanche, sur le flou, je peux que être d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un flou. Alors certes, c'est vrai, la réforme des assurances, enfin de l'assurance chômage, n'a pas été encore annoncée. C'est bien le problème dans lequel on est en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde spéculent et qu'on n'a pas quand même une clarté absolue.
Comment le gouvernement peut s'en sortir?
Je ne sais pas. François Mombois, ce qui est amusant, c'est que est sorti, je crois, dans l'Express ces jours-ci, le récit de comment la réforme des retraites est arrivée dans la campagne Macron. Et c'est exactement ce que vous dites, parce qu'apparemment, il y a un mail de Colère, mais qui date d'Alexis Colère, qui était directeur de campagne, il y a trois ans, où il disait, bon, mais sur le concept, c'est très bien et très clair, par contre, l'exécution, on n'y est pas du tout. Ouais. Et trois ans après, on en est au même point, c'est-à-dire qu'on dit, on fait le même régime pour tout le monde, un euro cotisé, etc., bravo. Et après, comment on fait? Et comment on fait pour les infirmières, pour les instituteurs, pour les policiers?
Mais il y a eu deux ans, on le rappelle à chaque fois, il y a quand même eu deux ans.
Oui, mais il faut rentrer dans le détail de chaque dossier, mais ça n'a pas été fait.
Ça n'a pas été fait, mais il faut rajouter qu'on n'a pas vraiment d'opposition politique en dehors de l'extrême droite et l'extrême gauche en France. Et ce qui reste de l'émiettement de la droite républicaine et le PS, quand les micros sont coupés, ils sont tous pour cette réforme. Il y a quand même ce problème-là. Donc c'est pour ça que la rue...
Pour une réforme, c'est sûr. Cette réforme, je ne sais pas, parce qu'on ne la connaît pas.
Mais
ce qui est grave, et ça, je pense que ça va jouer considérablement sur le discrédit des hommes politiques, c'est que ça reste, c'est-à-dire que si quelqu'un a une bonne idée ou une solution et qu'il n'est pas dans le bon camp, les politiques continuent à jouer leur vie politique. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et je voudrais citer Éric Woerth, pas du tout d'où que ça vienne. Éric Woerth était remarquable bien dans son analyse de ce qu'il fallait faire ou ce qu'on pourrait faire,
etc. Peut-être pu faire avant.
Mais il sera... Oui, voilà, mais ça, pardon Valérie, c'est ce que les gens vont dire. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il a dit. On dit, ah, mais il n'avait qu'à le faire avant.
Ça décrédibilise quand même sa parole.
Non, parce que d'abord, il a fait quand même une retraite. C'était la retraite Fillon. On en pense ce qu'on veut, mais il y a une petite avancée. Et ensuite de ça, on est à un moment, je pense, un moment où dans le pays, il faut que les bonnes volontés s'allient pour arriver à trouver une solution.
On a Hélène en ligne avec nous. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour. Excusez ma voix un peu éraillée.
C'est très bien.
Rebondir sur ce que vient de dire la dame. Savoir, en parlant de bonne volonté, je suis tombée sur les revendications faites par la CGT en 1953, lors de la première grève des cheminots et des fonctionnaires contre les projets de retraite. Et c'est mot pour mot exactement les mêmes revendications que maintenant. Donc depuis 1953, ils restent campés sur leur position.
On vous entend très mal parce qu'il y a du vent là où vous êtes. Je crois que vous êtes dans la rue.
Je suis dans le sud de la France.
Il y a beaucoup de vent.
Voilà. J'essaie de me mettre à l'abri.
Donc vous dites que ce sont les mêmes termes, la même réforme.
Exactement. Exactement pareil. Donc on peut. Est-ce qu'on peut négocier avec des gens qui.
C'est la question. Un auditeur nous dit sur Twitter, une réforme, oui, mais une réforme qui permette via des conventions collectives de branches pro et au métier des conditions de départ et de vie en retraite correctes et suffisantes, pas une réforme qui réponde à l'appétit des groupes financiers.
Je pense pas que ça soit vrai, les groupes financiers, mais il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est que les fonds de pension, la capitalisation, c'est pour les Français le mal absolu. La seule profession qui a accès à des fonds de pension, c'est les fonctionnaires.
Avec la préfond qui fait de la pub en ce moment en plus.
Voilà. Je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas ouvert la possibilité d'adhérer à préfond à tout le monde. De manière libre, comme les fonctionnaires. Et c'est complètement libre, vous cotisez ou pas. Ça aurait déjà dégonflé pas mal, parce que les gens se seraient fait un pécule en plus. Et l'autre chose, je me demande si ce n'est pas trop ambitieux, cette idée de changer tous les régimes, etc. Parce qu'on terrorise tout le monde.
Mais ce n'était pas écrit d'avance, tout ça?
Est-ce
que c'était pas prévisible?
Non, on a dû se rendre compte, à mon avis, au fur et à mesure que la concertation avançait ou piétinait. Là, on aurait dû s'en rendre compte qu'on n'arrivait pas à avancer.
Moi, je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire tout, parce que s'ils faisaient moins, ils auraient exactement la même réaction négative dans les rues.
Donc
autant tout faire. C'est ça, quand même.
Martine est en ligne avec nous, vous nous appelez de Bordeaux. Martine, vous soutenez la grève?
Ah oui, tout à fait. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit parce que j'ai des problèmes de radio, de perception. Quand on voit déjà au niveau social ce qui se passe avec toutes les réformes négatives, c'est-à-dire que on penche vers le bas au lieu de monter vers le haut en disant les privilégiés, il n'y a pas de privilégiés, c'est des luttes sociales qui ont été faites depuis des années. Revoyez votre histoire sociale, pour ceux qui disent les privilégiés, ils ont gagné leur lutte. Voilà, en plus, le système de points de retraite, ça va être en fonction de ce que vous gagnez, en fonction du nombre d'années de cotisation. Quand on voit les CDD, les petits boulots qu'on est obligé de faire parce que j'y suis passé, et quand on arrive à la retraite, on cotise. Mais on cotise pas pour toi, puisqu'il faut tant de nombre d'années, ainsi de suite. Et là, il faudra, en plus, un nombre d'années requis. Ça, on ne le dit pas. Voilà. Donc, moi, je suis pour qu'ils continuent les grèves. On est plein d'amis, là. On est même prêts à financer, à leur donner un petit peu, pour qu'ils puissent continuer ce qu'ils peuvent le faire. Voilà.
Vous êtes gréviste, vous êtes à la retraite
attendez,
ou vous êtes...
Attendez,
non, mais j'ai une question.
Je voulais rajouter autre chose, s'il vous plaît.
Non, mais
quand
je voulais savoir, je vous
réseaux,
pose une question.
Quand on
entend
dans certaines radios, dans certaines radios, que pour des grèves, vous pouvez être dissenti. Quand il y a une
c'est
grève nationale, intersyndicale... Ah si, je l'ai entendu sur BFM.
Mais que BFM
je l'ai
se
entendu
trompe
sur
une chose.
SCI, madame. Voilà.
Je ne critique
alors,
pas, madame, ce que vous dites. Je dis que les télés peuvent dire n'importe quoi.
Non, non, je ne dis pas n'importe quoi.
Vous
lisez le monde diplomatique, vous lisez n'importe quoi. Voilà. Alors là, vous êtes vous privilégié de votre petit côté. Vous savez pas ce que c'est que de travailler, de gagner.
Non, mais je sais rien. On sait rien ici. On est
les points de retraite seront calculés au niveau de votre salaire. Voilà. Au niveau de ce que vous gagnez. Non, c'est pas faux, madame.
Si.
Vous avez de mauvais renseignements. Je sais pas qui vous êtes.
Non, mais vous pouvez pas. Mais vous parlez du droit de grève. On est d'accord avec vous. Calmez-vous, Martine. Ne vous énervez pas.
Madame, que les gens ils sont contre tous ces systèmes.
D'accord.
On rapiboise tous les minima sociaux.
Oui,
vous
mais on n'a pas dit.
Vous êtes bien tranquille.
On n'a pas dit
vous
le contraire.
Ce que c'est.
Mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, Martine. On vous a pas dit le contraire. Ce que vous disait Sophie de Menton, c'est on ne se fait pas virer parce qu'on fait grève.
Je l'ai entendu sur BFM.
Mais oui, mais
appelez BFM à ce moment-là.
BFM, mais pas. Mais enfin voilà, on l'a jamais dit et c'est pas du tout le propos de ce qu'on a dit. Si ça arrive, c'est un scandale. Mais la loi normalement et la loi protège les grévistes, c'est un droit fondamental des salariés et voilà. Alors oui, Alexandre nous dit si on peut être licencié pour grève, j'en connais qui ont peur, bien sûr, et je pense que dans le privé s'il n'y a pas de grève, c'est aussi parce qu'il peut y avoir des conséquences beaucoup plus importantes que
si
dans le
public.
Si vous
saviez ce que ça coûte de virer quelqu'un, je veux dire, non mais il faut être un peu aussi logique dans ça,
dans
le privé on licencie pas un salarié qui a fait grève et on ne le vire pas pour ça,
ça
coûte très cher.
Ça peut vous coûter cher aussi d'avoir fait grève dans une entreprise privée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grève dans le privé, Sophie ?
J'aimerais des témoignages, bah,
posez,
j'ai même entendu
mais posez-vous
ça.
La question, où est-ce qu'il y a de la grève
carrière,
dans le privé ? Où est-ce qu'il y a de la grève dans le privé ?
Dans ma boîte, il y a eu des grèves, énormément. J'avais un centre d'appel, a négocié, ça a duré pas longtemps, mais bien sûr qu'il y a des grèves.
Non, mais c'est plus compliqué pour les carrières, mais c'est pas, voilà, ça fait partie, évidemment. Moi, vous savez que j'ai une expérience du privé assez importante. Hein. Je suis récemment arrivé en politique, j'ai un autre métier, vous aimez bien les gens qui ont deux métiers. Je suis économiste, je travaille dans un groupe. C'est sûr que dans le privé, c'est plus compliqué. Si vous n'êtes pas dans un très grand groupe, c'est plus
compliqué.
On gère.
Une boîte qui a une grève, elle gère dans les 48 heures, croyez-moi.
Bah, c'est pas évident. Je voudrais qu'on parle de Jean-Paul Delevoye.
C'est plus compliqué.
Jean-Paul Delevoye, donc, qui a oublié de mentionner, de signaler à la haute autorité, vous savez qu'il y a une haute autorité de la transparence, où les ministres et les députés doivent déclarer toutes leurs activités professionnelles. Et lui, il a oublié de déclarer qu'il était administrateur de l'IFPAS, l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Il a admis une omission par oubli sur sa déclaration d'intérêt. Il a promis de démissionner de son mandat bénévole au sein de l'IFPAS en cas d'incompatibilité. Et il a en effet démissionné ce matin. Bah, dites donc,
Valérie,
il s'en est rendu compte ce matin.
Non, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il n'a pas pensé qu'on ne devait déclarer que ce qui était rémunéré?
Enfin, Sophie, vous n'êtes pas née l'année dernière.
Non, mais il faut quand même... Ouais. Bon, non seulement il est bénévole, mais comme il le dit lui-même, il n'y va jamais, il n'a absolument pas le temps, il a accepté d'occuper ce truc-là, il ne connaît rien entre les assurances. Maintenant, se pose le problème, on en parle du conflit d'intérêts. C'est toujours cette histoire. Bon, mais il y a un moment, quand on est compétent et qu'on occupe des grandes fonctions dans la politique, on a forcément un problème de conflit d'intérêts. Ou alors, on prend que des gens mauvais qui travaillent nulle part. Enfin, excusez-moi, mais ça va être le problème aujourd'hui, dans les années à venir. Forcément, le risque de conflit d'intérêts va être de plus en plus important. Mais ce n'est pas un argument.
Alors, François Monboise, rapprochez-vous du micro.
De ne pas l'avoir dit.
Il n'y a pas vraiment oublié.
Je ne sais pas, mais il faut le dire. Ça aurait été bénévole dans une association complètement différente, ça ne serait pas été le sujet. Mais là, c'est les assurances. Et comme j'ai dit tout à l'heure, assurance égale fonds de pension, c'est très mal vu.
Et les assurances soutiennent la réforme des retraites.
Oui, globalement.
Comme par hasard.
La banque aussi, enfin, le patronat soutient.
Je suis d'accord avec vous avec ce que vous dites. Je crois qu'on ne comprend pas bien et la notion de conflit d'intérêt et la notion de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je la pratique depuis très longtemps, y compris dans le privé en l'occurrence, où je déclare jusqu'à un cours que je fais bénévole à Sciences Po parce que on considère que je ne vois pas forcément le conflit d'intérêts, mais que le fait d'avoir une transparence, d'abord, permet d'avoir d'éviter ce genre de polémique. S'il l'avait noté, et je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, non. Mais s'il l'avait déclaré,
là, voilà
nous n'aurions pas cette diversion aujourd'hui. Alors, je parle pas de son cas en particulier, mais on a une faible culture du conflit d'intérêts, et c'est vrai que ça va se poser la question, et moi je souhaite d'ailleurs que ça se développe, parce que vous avez raison, les gens compétents font plusieurs choses.
Bah oui.
Et on ne peut pas demander à ce que la vie politique se renouvelle avec des gens qui ont fait autre chose dans leur vie, ce qui, à mon avis, est capital et souhaitable, et ne pas vouloir que les gens aient fait d'autres choses ou qu'ils fassent d'autres choses.
Il est toujours bénévole, il n'avait pas démissionné.
Mais il y a un prix à payer, mais peu importe, bénévole ou pas, ce n'est pas le sujet.
Non,
en fait,
ce n'est
pas le sujet de rémunérer ou pas, c'est le sujet d'avoir un groupement d'intérêt, un intérêt particulier quelque part. Je ne parle pas de son cas, mais d'une manière générale, c'est l'occasion de progresser aussi sur cette notion de transparence. Il n'y a qu'une solution à ces conflits d'intérêts qui sont tous gérables, c'est la transparence absolue de ses fonctions et de ses implications.
Et j'ajouterais que les assurances soient pour, et alors ? Je veux dire, à un moment, nombre de corps de métier pour, enfin, à ce moment-là, on va arrêter.
Non, mais c'est.
On va prendre que les contrôleurs
de la RATP. Il est rapporteur de la réforme des retraites, c'est quand même. Alors, en revanche, il n'a pas oublié de déclarer qu'il est président de la Chartreuse de Neuville, une association des orchestres nationaux. Donc, c'est bien, il a la mémoire sélective. Si c'est
il
ça
a des hobbies, garçon.
S'il avait oublié ça, je pense que ça n'aurait pas eu le même impact, le fait que ce soit les assureurs.
C'est vraiment grave.
Bah oui.
Ah bon. C'est pas très grave, mais ça rajoute une petite
pierre. C'est pas grave,
c'est pas nécessaire.
Ah, mais en même temps, s'il l'oublie, on en parle plus que s'il l'avait pas oublié.
Absolument.
Voilà, ça fait beaucoup de temps et ça contribue à nourrir, vous voyez, cette espèce de notion que les gens ne comprennent pas. Je dis pas que c'est pas, personne n'est en train de dire que c'est malhonnête. On dit que c'est dommage. Voilà.
Absolument. On se retrouve dans un instant. On va dire quelques mots de ces ministres qui se présentent aux élections municipales. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio. 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, je voudrais qu'on parle de la condamnation ce matin de Jean-Luc Mélenchon. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné Jean-Luc Mélenchon à 3 mois de prison avec sursis, 8000 euros d'amende pour acte d'intimidation envers un magistrat et un dépositeur de l'autorité publique, rébellion et provocation. Vous vous souvenez qu'il s'était, les images, on les revoit pratiquement tous les jours dans l'émission quotidien. Il avait estimé avoir mené un acte de résistance violente avec usage de la force. Non, ça, c'est le parquet qui avait requis ça. Et lui s'était défendu d'avoir utilisé la violence physique. Un commentaire sur cette condamnation.
Moi, la condamnation, j'ai pas à la juger. C'est la justice. Évidemment, je trouve que c'est normal, cette condamnation. En revanche, je suis assez courroucé, on va dire, par les commentaires de Jean-Luc Mélenchon suite à cette décision, où il a un discours qui est mot à mot le même que celui du Front National il y a 20 ans ou il y a 25 ans, à savoir c'est un procès politique, je suis une victime, on a voulu récupérer la liste des militants France Insoumise, alors qu'il suffit d'aller sur Twitter pour voir en 2 secondes.
Ils sont 3.
et je trouve ça pas bien.
Il a dit c'est du grand n'importe quoi, le pays est à côté de ses chaussures, la justice a été instrumentalisée par le pouvoir public.
Honteux.
François Monboise.
Non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je trouve que l'intitulé de la condamnation que vous avez lu tout à l'heure, c'est rébellion, intimidation, c'est exactement ce que tout le monde a vu sur les images. C'est-à-dire qu'ils hurlent à 10 cm d'un pauvre policier qui est terrorisé presque. Hein.
Et des magistrats, qui étaient là.
Et des magistrats, c'est ça. Donc c'est normal qu'un élu qui fasse ça devant tout le monde soit condamné.
Et d'autant plus que, quel que soit les sentiments qu'on puisse avoir vis-à-vis de Mélenchon, c'est très symbolique et on ne peut plus avoir une justice qui ne condamne pas ceux qui attaquent les flics ou les condamne pas suffisamment. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec la difficulté que nous connaissons, toucher à un flic ou lui manquer de respect, on doit être intransigeant dans le jugement.
En réalité, c'est plus grave venant d'un homme politique. On dit que c'est, d'une certaine manière, c'est défendu en disant qu'un homme politique n'aurait pas dû avoir une perquisition. Tout le monde est égal devant la loi, mais il y a quand même une exigence un peu supérieure pour quelqu'un qui prétend plus haute fonction, qui est de respecter le fonctionnement des institutions, que ce soit sur le commentaire, effectivement, d'une décision de justice, ou que ce soit sur l'exercice même de la justice.
Et Alexis Corbière a été relaxé.
Alexis Corbière a été relaxé de ce que j'ai lu. Il y a eu d'autres condamnations. Il y a eu d'autres condamnations également. Jean-Luc Mélenchon a déclaré la honte est pour ceux qui ont commandité ce cirque médiatico-judiciaire. On se demande qui a fait le cirque.
La théorie du complot.
Je porte ma condamnation pour rébellion comme une décoration. Je félicite les policiers généreusement indemnisés pour leur atroce souffrance et nombreuses journées d'arrêt de travail. Voilà ce qu'il a déclaré à la sortie du tribunal.
Ça, c'est d'autant plus terrible qu'il y a une vraie souffrance chez les policiers qui est marquée par un taux de suicides comme on n'en a jamais vu dans la police, et que d'aller sur ce terrain-là est franchement abject.
Y compris la menace qu'ils ont pour
rappelle
samedi,
qu'hier,
pour
un policier a été poursuivi par un type à scooter qui a foncé sur lui à 3 reprises, qu'il y a des policiers qui ont reçu des menaces de mort à leur domicile.
Pour vendredi 13, donc, absolument.
Et au-delà de ça, rappelons quand même que Mélenchon est à 6,5-7% maximum. Enfin, il parle comme s'il était le deuxième personnage de l'échiquier politique français, ce qui est loin d'être le cas.
Enfin, malheureusement, je trouve que 6% qui cautionne les propos et la violence de Mélenchon, c'est énorme.
Oui. Bon.
Il porte d'autres combats, heureusement, mais enfin, sur ce plan-là, c'est assez scandaleux.
Bon, on dit quelques mots quand même donc de ces ministres qui ont décidé de se présenter aux municipales. 2 ministres candidats à Biarritz, mais pas sur la même ligne. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui a annoncé sa candidature vendredi. Et le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, figure sur une autre liste. Donc déjà, il y a un peu de bordel, hein, pour parler un peu trivialement. Mais moi, ça me choque. Je me dis, soit on est ministre, soit on est maire. Non,
ça n'a rien à voir.
Élu.
Je suis d'accord avec vous. Maire, c'est un mandat de proximité, c'est un mandat local. Moi, je ne vois pas comment on peut s'intéresser à un mandat local et être dépositaire d'un mandat national où vous devez vous occuper de toute la France. Évidemment que c'est incompatible. Vous savez quoi, moi, je dirais même un peu plus loin. Je suis même étonné, au-delà des ministres, des cas des ministres, de tous ces députés qui viennent d'être élus, hein, puisqu'on parle d'il y a deux ans et demi, qui n'ont pas fait la moitié de leur mandat et qui, tout d'un coup, maintenant, comme une envie de pisser, ont envie d'être maire. Alors, ils ont envie d'être maire, ce qui veut dire de renoncer, ce qui, en fait, ils sont candidats pour renoncer à leur mandat. Puisque vous avez bien compris que si vous êtes maire, vous ne pouvez pas être député. Donc, ça veut dire que quand on est aujourd'hui candidat, qu'on est député et qu'on veut être maire, on est donc candidat à la démission de son mandat qu'on n'a même pas exercé. Personne n'en parle. Moi, je suis très choqué par ça. C'est pas dans la même circonscription. C'est du n'importe quoi, cette espèce de parachutage, de tourisme électoral dans lequel c'est l'ancien monde, ça.
Mais c'est surtout un cynisme derrière qui est de dire je vais aller me présenter comme maire, comme ça ils verront que je suis un maire qui a plus de pouvoir puisqu'avant j'étais là-bas. Voilà, c'est ça en fait.
C'est
ce cynisme-là.
Aussi un parachute. Hein.
Mais c'est
choquant, voilà,
c'est très choquant.
C'est de se dire de toute façon on va être viré du gouvernement.
Alors, il y a un sujet par rapport à ça, c'est le cumul des mandats. Il faut savoir, moi je dois dire que j'hésite sur cette question parce que le cumul des mandats, tout le monde est contre, on est d'accord. Et d'un autre côté, il reste à ces gens déconnectés, en particulier quand ils sont ministres. Je veux dire que le contact qu'on peut avoir avec le bon sens et le terrain, il passe par les mandats locaux. Donc je suis très, très, très mitigée là-dessus.
Oui, François, sur cette...
Moi, ça ne me choque pas trop que des ministres se présentent comme maires. Après, la question, mais je crois qu'ils n'ont... Non, mais quand ils se présentent, quand ils font campagne, ils ne vont pas démissionner.
Pourquoi pas ?
Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas à la fois reprocher au ministre de ne pas avoir un ancrage local, et puis quand ils veulent se présenter à une élection,
dire
vous n'êtes plus ministre.
Non,
l'ancrage local, vous devez l'avoir eu avant.
Vous devez l'avoir eu avant, s'il ne l'a pas eu avant.
Vous l'avez après, mais pas en même temps.
Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas reprocher au ministre d'être hors sol, de ne pas connaître la réalité et pas vouloir qu'il y ait...
On ne peut pas acquérir son expérience au moment où on est élu. Je veux dire, c'est une expérience. Ce qu'on reproche, c'est que des gens soient hors sol, mais être dans le sol, avoir connu quelque chose, il faut avoir fait une carrière avant. Il faut avoir travaillé. Vous n'allez pas le faire en 3 mois. Ils ne vont pas acquérir une espèce de connaissance du terrain en 2 mois ou en 3 mois. Enfin, pardon.
Ça pose un problème de temps. On ne peut pas faire les deux en même temps.
Comment est-ce que le Premier ministre pourrait faire une campagne comme maire du Havre ?
Il y en a bien un qui a été maire de Paris, donc c'était pas gênant.
Non, je comprends bien,
mais c'est le nouveau monde, là, on parle du nouveau monde.
Avec la situation actuelle, que le Premier ministre aille faire campagne au Havre...
Ça, il n'en est pas question encore.
Non, mais il y en est question aussi.
Mais on a entendu Marlène Schiappa dire qu'elle réfléchissait à l'endroit où elle pourrait se présenter. Il y a Brune Poirson également. Enfin, ils sont.
Ça
vous choque
mais
pas.
Mais quand même, pardon, la relation.
Ça fait vraiment
un mandat
la soupe
de
bonne, quoi.
Un mandat de maire.
Ça aucun rapport.
C'est même pas une question de soupe, c'est une question de déconnexion. Pour le coup, là, ça, c'est de la déconnexion, de se dire, tiens, j'irai peut-être là. On a une relation où on ne l'a pas avec un territoire.
Et on bosse pas.
Là, ça fait télé-réalité. C'est-à-dire qu'on va emmener Marlène Schiappa dans le Limousin. Elle va voir qu'il y a un côté un peu, voilà, gadget, quoi. Ça, les gens en veulent plus.
Vous parlez du cumul, on a parlé du cumul simultané, mais il y a un problème de cumul aussi dans le temps. Moi, je suis contre le cumul. Le cumul, c'est le cumul en même temps. Heureusement, on a des lois qui y ont mis fin. Mais c'est aussi le cumul dans le temps. C'est de faire le même mandat éternellement ou c'est de changer de mandat. Vous voyez, c'est d'aller et de venir d'un mandat, d'un territoire à un autre. Non, aller faire autre chose.
Mais à quoi ça rime de vouloir se présenter à la mairie quand on est ministre ?
Je comprends pas.
Ou député.
Ou député.
Non, mais pourquoi l'interdire ? Pourquoi un ministre n'aurait pas le droit d'être maire
parce que tout c'est simplement parce qu'il ne peut pas se consacrer à sa fonction, ni de ministre, ni de maire.
Mais il a le droit, mais à un moment donné, qu'il prenne son risque et qu'il démissionne.
Oui, c'est ça. C'est de prendre le risque.
C'est le mandat qu'il veut. Moi, j'ai un problème avec tous ces gens qui disent ouais. « Je veux ce mandat-là, je suis prêt », et puis qui, deux ans après, l'abandonnent pour un autre. Plus, je ne sais pas, pas forcément plus juteux. Ce n'est pas une question de rémunération. En l'occurrence, maire, ce n'est pas très bien payé. Mais c'est une question de carrière
de
politique.
Des gens qui veulent comme sécuriser ça, voilà. leur avenir.
Absolument. On change de poste, comme dans l'entreprise, on a envie d'une marche. Ou alors, vous prenez votre risque, vous dites « Finalement, je me suis trompé, je démissionne immédiatement de mes fonctions de député, parce que je veux être maire aujourd'hui. »
Sans compter que c'est une prime, parce qu'inutile de vous dire que c'est normal. Une ville est fière d'avoir un ministre, donc elle va voter pour lui. Globalement, il n'y a pas de problème, pas besoin de faire
c'est
campagne.
Pas évident, hein.
Donc,
pas évident
aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas évident.
Elle sera élue où elle veut, le Premier ministre aussi, si on parle du Havre, mais je veux dire, je crois quand même.
Bon. À suivre. Merci à tous les quatre. À suivre. André Bercoff sera là, en très grande forme. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.